Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils? Où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière? Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Et Fred, alors on passe sur la deuxième partie. Entre préparation physique et préparation athlétique, c'est quoi la différence?
Eh bien, c'est le... J'ai trouvé à l'occasion de ta question enfin un parallèle. Le concept de masseur kinésithérapeute. si tu dis à un kinésithérapeute qu'il est un masseur, voilà, ouais, tu le traites de masseur. Ah, j'ai mon masseur, et que tu t'en tiens là, eh ben, tu es réducteur. Eh bien, préparateur physique et préparateur athlétique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est dans la préparation physique, on est sur la seule qualité physique. On est sur le 1RM à la presse ou en demi-squat. On est sur les angles obtenus dans l'amplitude passive articulaire. On est sur la VMA, sur le VAMEVAL. Voilà, très bien. OK. On est sur du gainage tenu 11 minutes sur une posture en décubitus dorsal. D'accord. En fait, on est sur la qualité physique. Alors ça c'est presque un fondamental. Là, les qualités physiques, c'est la connaissance du solfège pour un préparateur athlétique. Voilà, on connaît le solfège, on connaît les notes, les mesures, les harmonies, très bien. Les rythmes, tout ça. Mais après, on est loin d'avoir fait la partition de la préparation athlétique. Et donc, la différence entre les deux, c'est la motricité. C'est-à-dire que la préparation athlétique, elle va avoir une cible en direction d'une discipline sportive. Or, la force des membres inférieurs, c'est pas la même pour le lutteur que pour le basketteur. C'est pas la même pour le volleyeur que pour le joueur de rugby. Et donc, il y a la motricité entre les deux. Et le préparateur athlétique, c'est un préparateur physique qui traite les qualités physiques médiées par la motricité nécessaire aux exigences d'une discipline. Et là c'est tout un monde. Et je disais tout à l'heure que l'EPS est atteinte du SIDA. Le SIDA, c'est le syndrome institutionnel de didactique aiguë. C'est-à-dire que le sport a volé en éclat, la technologie des APS a volé en éclat, on fait plus du social et puis de l'observation et tout ça. Bon. Alors que le préparateur athlétique, finalement, il est dans les conduites motrices, il est dans l'apprentissage moteur, support à l'expression d'une qualité physique. Si on n'est pas dans le support moteur et les habiletés gestuelles qui permettent à une qualité physique de s'exprimer, eh ben oui, on est un préparateur physique. Très bien. Donc, notamment, lorsque les jeunes sortent d'un master entraînement et qui veulent monter une boîte d'évaluation des qualités physiques, ben ouais, ils ont une vision préparation physique. Ouais, tu peux le tapis de Bosco, l'opto-jump, la Balakoff pour la détente. Ok, tu peux prendre tous les beepers que tu veux du monde pour faire une évaluation de la vitesse maximale aérobie. Tout ça est nécessaire. Hein. Tu peux avoir la table de Britsky pour l'évaluation de la force, pas de problème. Tu peux sortir tes cellules pour tester la vitesse d'un 30 mètres départ arrêté ou 10 mètres lancés, tout ça fonctionne. Mais c'est pas de la préparation athlétique. Lorsque Aimé Jacquet disait à Robert Pires « muscle ton jeu », il y a quoi ? Il y a muscler le jeu et non pas muscle tes épaules, muscle tes cuisses. C'est muscler le jeu, autrement dit, c'est quelle est la puissance, l'énergie, l'impact que tu mets dans ton jeu. Ben, c'est médié par la motricité, messieurs, dames. Voilà.
Top.
Impeccable. Et ça c'est probablement mon, ouais, c'est probablement, si tu veux, ma posture de professeur d'éducation physique que j'évoquais au début, jointe à mon parcours athlétique, qui a cette vision là. Et alors du coup ça faisait de moi, ça a fait de moi quelqu'un qui a toujours respecté le sport pour lequel je travaille. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues de l'athlétisme, faut pas emmerder les basketteurs, les handballeurs, les footballeurs, et bien par des gammes athlétiques insipides. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Cathy Melin, cette grande dame du basketball. C'est une jeune femme qui avait fini sa carrière internationale quand elle était à Bourges, et Pierre Vincent arrive à la convaincre pour l'Euro 2009. À la convaincre de revenir dans l'équipe de France. Waouh. Et cette femme, elle a accepté. Alors, on fait un entretien sur la préparation athlétique, et je lui fais « Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu aimes dans la préparation physique ?» Elle me dit « Fred, ce que j'aime pas dans la préparation physique, c'est les gammes athlétiques. » Cette jeune femme avait 30 ans, elle en avait par-dessus la casquette. Elle me fait le signe de la main au-dessus de sa tête, comme ça. Les gammes athlétiques, j'en ai ras-le-bol. Mais ouais, s'il n'y a pas de sens donné aux gammes athlétiques, qui sont d'abord des moyens d'échauffement, et les gammes athlétiques, talons, fesses, montées de genoux, jambes tendues, etc., ça suffit pas dans le basket, le badminton. Il y a des pas chassés, il y a le recul frein, il y a la course arrière, il y a plein de choses encore. Eh bien, ça, c'est sûr que ça lasse. Bon. Et donc, on y a mis le ballon. Et moi, j'avais vu lors d'une clinique avec des jeunes basketteurs que quand t'as un basketteur de 15 ans là qui est en pleine crise de croissance, tu lui demandes de faire des gammes athlétiques, t'es très déçu. Hein. Il est très malhabile. Tu lui donnes le ballon et tout revient dans l'ordre. Hop, ça le restructure, ça le rétablit. Eh ben, c'est ça le message que me donnaient ces jeunes. C'est que donnons du sens aux gammes athlétiques et tout reviendra dans l'ordre. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, mais bon.
Très bien.
Ok. Oui, préparation physique, préparation athlétique, oui. La motricité comme plus et comme tremplin et comme raison d'être de la préparation physique, ça devient de la préparation athlétique. Alors j'insiste aussi, parce que je suis, on va dire, intéressable là-dessus, athlétique. C'est pas l'athlétisme.
C'est pas l'athlétisme, ouais.
L'athlétisme, c'est le nom qu'on a donné au champ des disciplines track and field, comme disent les Américains. Mmh. J'aime bien track and field parce que c'est le lieu sur lesquels, dans lesquels se pratique l'athlétisme, la piste et le champ. Donc, athlétique, ça vient des mots grecs athlos et athlon. Athlos, la compétition. Athlon, le combat. Le décathlon, c'est 10 combats. Athlos, la compétition. Et donc, la préparation athlétique, c'est traiter les qualités physiques des sportifs en vue de leur permettre la confrontation en compétition et la capacité de combattre. Dans quoi ? Eh ben, est-ce que c'est de la boxe ? Est-ce que c'est du squash ? Est-ce que c'est du rugby ? Est-ce que c'est du volleyball ? Voilà. Et là, ça prend tout son sens. Et du coup, ça permet de se rappeler que on fait une analyse technologique de la discipline pour laquelle on travaille en tant que préparateur physique. Et c'est ce qui nous fait être des préparateurs athlétiques, des masseurs kinésithérapeutes et seulement pas des masseurs, donc des préparateurs athlétiques au service d'un sport. Ça y est, je t'ai tout dit là-dessus pour l'instant.
Qu'est-ce que à toi pour la suite. Et justement, alors ça fait penser aussi entre vitesse et vivacité. Tu vois, moi j'ai des souvenirs de ce que tu nous avais fait au DUEP, justement, avec les petites cônes, les cônes que t'appelais les oreilles de Mickey, où on faisait marche arrière avec des petits appuis, puis on repartait en accélérant à fond. Et à l'époque, je crois que t'étais peut-être à la fin du basket. Tu vois, c'était entre 2012 et, je pense que ça doit être entre 2012 et 2014. Tu commençais à intégrer le foot. Ouais. Et donc, quelle est ta définition de la vitesse? Quelle est ta définition de la vivacité? Ouais. Et voilà, quel est le plus intéressant?
Ouais. Bon, pour que les auditeurs soient pas largués, les oreilles de Mickey, bon ben voilà, vous mettez deux coupelles, moi je les mets bleues, deux coupelles devant vous, et vous avez deux oreilles de Mickey. Et donc il faut contourner l'oreille de Mickey à droite, puis en repassant par le milieu du visage de Mickey, son nez, sa truffe, tu passes par l'oreille de Mickey à gauche, et ça fait l'oreille de Mickey à droite, l'oreille de Mickey à gauche. Voilà, c'est comme ça que pour donner des images, quoi, qui parlent. Ouais. Voilà. Alors, vitesse, vivacité. Alors c'est intéressant. Je me permettrai un clin d'œil d'ailleurs en pensant à ma fille défunte Marion, qui était mécanicienne dans l'armée de l'air. Jusqu'à quelques années encore, notre dispositif de défense aérienne, c'était le Mirage 2000 couplé au Rafale. Petit à petit, le Mirage 2000 va disparaître. Pour être tout rafale. Qu'est-ce qui se passe? Le Mirage 2000, c'est un double supersonique. Il fait Mach 2 et quelques. Alors, ça veut dire que physiquement, quand on violait nos frontières, on envoyait le Mirage 2000 pour que physiquement, il aille au contact de l'avion, de l'ennemi qui s'introduit. Et donc, c'était Mach 2. On imagine, ça va très très vite. Ça, c'est la vitesse. C'est Usain Bolt. C'est Kylian Mbappé lorsqu'il prend le couloir et qu'il faut se compagner à tout le monde. Très bien. Ce sont nos arrières en rugby, nos ailiers. Et puis la vivacité, c'était le Rafale. Le Rafale aujourd'hui, c'est un avion, il est seulement mono supersonique, il fait Mach 1,2 ou 3, je sais plus trop, mais pas beaucoup plus. Par contre, il a une vivacité dans le déplacement qui est recherchée dans les autres avions, comme les Raptors américains. Et donc, il peut faire un virage à angle droit. Il peut comme ça aller tout doucement devant toi, ce que peut pas faire un Mirage 2000. Il peut monter brutalement, virevolter, aller en bas, en haut, tourner sur lui-même. Il a une vivacité dans l'air que n'a pas le Mirage 2000. Mais par contre, ce qu'il a, oui, c'est pour la défense, pour finir avec la métaphore, c'est qu'il a des missiles qui vont plus vite que lui et qui vont, grâce aux appareils radars, télémétriques et autres, envoyer un projectile sur l'intrusion, celui qui fait l'intrusion, en envoyant. Donc, il prend les airs, il calcule où est l'intrus, et il envoie son missile qui va beaucoup plus vite que lui. On a besoin des deux. Enfin, on avait besoin des deux, puisque le Mirage 2000 va disparaître. Mais c'est ça l'idée. Alors, je parlais d'Mbappé. Ce qui est génial, Mbappé, c'est que c'est un Mirage 2000 et un Rafale à lui tout seul, parce qu'il est capable de fausser compagnie avec une grande vitesse verticale. Et quand il arrive dans le petit périmètre, dans la surface de réparation, il est capable de virevolter, de tourner autour. Voilà. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et on a besoin des deux qualités. C'est-à-dire que, grâce à Kylian, je peux expliquer que il faut pas l'un ou l'autre, il faut les deux quand on est joueur de sport co. En revanche, Usain Bolt, les sprinteurs en athlétisme, la vivacité, ils en ont rien à foutre.
Ouais, ça fout.
Un couloir d'un mètre 22 en ligne droite, un coup de pistolet, les blocs, la ligne d'arrivée devant toi. Voilà, ils en ont rien à foutre. Et, on va dire que Lionel Messi, ça l'intéressait pas trop la vitesse. Mais respect pour ce joueur extraordinaire, hein, parce qu'il était capable quand même d'être pénétrant, d'être agressif dans la verticalité quand même. Mais bon, c'est pas sa marque de fabrique. Il était là comme un renard dans la défense, et puis tout d'un coup, quand il décidait de fausser compagnie, c'était par la vivacité qu'il le faisait. Celui qui était le plus dans la vivacité, exempt de vitesse, c'était Ibrahimovic. Zlatan. Zlatan, il s'en foutait de la vitesse. De toute façon, il avait une VMA de moineau et il campait dans... Voilà.
Ouais, top.
Voilà. Alors, la vitesse, c'est aller vite d'un point A à un point B, entre deux points sans obstacle entre. Donc, comment tu vas vite d'un point A à un point B? Il peut y avoir une courbe. Il peut y avoir une courbe, un relative S, mais c'est des grandes courbes, des grands slaloms, ok. Et puis la vivacité, c'est la vitesse multidirectionnelle. On va en direction des quatre points cardinaux. Est-ce qu'on fait une croix, un losange? On revient en arrière. On se stoppe et on repart. Il y a des breaks. Il y a dans la vivacité, il y a des ruptures, il y a des syncopes qu'il n'y a pas dans la vitesse.
Top. Voilà. Top. Et Fred, alors on en parlait tout à l'heure en off.
Ça te va?
Ouais, c'est impeccable. Moi, j'étais marqué au duep. Et puis, je sais que y a beaucoup de personnes qui pensent ça de toi, par la force de démonstration et l'énergie que tu mets quand tu as un groupe face à toi pour démontrer, pour expliquer, etc. C'est hyper dynamique et puis ça, j'allais dire, ça motive tout le monde et même ceux qui sont un peu moins dynamiques, ils sont obligés d'élever leur niveau en termes de dynamisme pour arriver à suivre. Et la question, c'était, d'où ça te vient? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, d'inné, d'intrinsèque? C'est quelque chose que tu travailles parce que c'est comme ça que tu arrives à capter l'attention de tout le monde? Et après, il y aurait une autre question, c'est comment on développe cet aspect-là à, on va dire, fédérer un groupe et à le rendre dynamique quand on prend la parole ou quand on démontre quelque chose?
Ouais. C'est probablement le sujet sur lequel je parle le moins bien. À propos duquel je parle le moins bien, parce que j'ai pas formalisé ça et on est dans ce qui est au fond de moi, c'est-à-dire c'est comment je fonctionne. Et d'ailleurs, je voudrais à la fois, car c'est bien que tu pointes ça, parce que quand même, un préparateur athlétique, on est dans le registre le moins sexy chez un sportif. Quand un joueur de football, on va lui annoncer qu'on va faire des intermittents. Bon, si tu sors les échelles de rythme, les coupelles, les miniets, ça va, ça va le faire. Il comprend que ça va bouger, il est plus dans ce qu'il aime faire. Et si en plus tu mets des relations de passe, de la conduite de balle ou du jonglage en plus, en conjonction de coordination, ça va bien. Mais dans l'aérobie ou dans, et même tu vois, tiens, chez certaines féminines, chez certaines joueuses, rien que le rendez-vous en salle de musculation. J'ai dit tout à l'heure qu'on envoyait de moins en moins qui étaient retors à faire ça, mais j'ai quand même eu, dans mes sélections hommes et femmes, et surtout chez les femmes, quelques éléments qui me disaient, oh, dans une salle de musculation, j'avais une question qui était salle de musculation égale salle de torture. Fallait répondre oui, non. Sur un effectif de 20 joueuses, je pourrais en avoir 3 qui me répondent oui.
Ah ouais, d'accord.
Et là, il faut faire en sorte que.
Ouais,
bien, tout part de l'idée que si on est convaincu que l'on va faire du bien à nos sportifs, que la préparation athlétique, c'est quelque chose qui est bon pour eux et pour elles. On est convaincu de là-dessus. Que ensuite, on les aime, qu'on s'intéresse à eux comme individus et que on sera nous-mêmes payés par leur progrès. Alors, on s'efforce de rendre attractif. Ludique, j'aime pas. Parce que ludique, c'est un faux fuyant d'une part, puis c'est un raccourci pour dire, ouais, il faut qu'on s'amuse. Attends, il faut qu'on s'amuse. Il y a d'abord de la qualité de contenu à proposer, de la pertinence dans les contenus. Et là-dedans, est-ce qu'on a pris plaisir? Et un sportif qui se respecte, il prend plaisir lorsqu'il a senti sa maîtrise du bien faire dans des choses qui ont du sens, même s'il doit avoir le goût du sang dans la gorge et qu'il a été en détresse respiratoire et que ça tape un peu dans les muscles. Si au total ça l'a fait dans la direction de son sport, il va le faire. Et donc ouais, quand on a ces convictions que ce qu'on va proposer aux sportifs, ça va être bon pour eux. En direction de la performance que l'on a définie au début de notre entretien. Lorsque on s'intéresse à l'individu, car une des particularités aussi de notre milieu, de notre registre, c'est qu'on doit entraîner un groupe en sport co, mais il faut que dans ce groupe, chacun se reconnaisse dans ce que tu lui dis et lui proposes. D'où l'importance, oui, de faire des tests qui permettent d'évaluer les ressources des uns et des autres. Mais ensuite, voilà. Alors là, eh ben, ouais, moi, l'enthousiasme me prend, l'envie de partager, cueillir la banane. Tu vois, je te parlais en off de ce jeune collègue que j'ai le bonheur de rencontrer au comité alpin du Mont-Blanc, de ski alpin du Mont-Blanc, Quentin Hoth, pour le citer. Cet homme, il me plaît beaucoup parce que lui-même, il met en avant l'importance d'avoir le sourire quand on travaille. Et c'est pas un sourire niais qu'on demande. C'est le sourire de l'extase quand on s'épanouit dans quelque chose que l'on fait de bien. Et le registre athlétique, il prête. Voilà. Et donc, les images, les mots forts, des feedbacks positifs. On sait en programmation neurolinguistique que les termes de négation, eh ben, sont destructeurs. Mais les termes positifs et les mieux vaut donner la couleur vers laquelle on veut aller que la couleur vers laquelle on ne veut pas aller. Si on dit ne va pas dans le rouge, eh ben, l'individu voit le rouge. Si tu dis va dans le bleu ciel, tu lui montres le bleu ciel. Voilà. Si tu lui dis ne fais pas ça, tu lui montres, tu lui mets l'image de ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et tout comme ça. Et après, ben, voilà, je peux assurer tout le monde que je prends plaisir à donner du plaisir à autrui. Voilà. C'est peut-être comme l'acte d'amour, le vrai. On prend plaisir à donner du plaisir à autrui.
Ça sera la phrase que je mettrai en titre. Super.
Ouais. En tout cas, c'est bien que tu aies noté ça. Parce que j'ai parfois été déçu par des collègues qui étaient pointus dans les contenus qu'ils proposaient, mais qui, à l'arrivée, étaient des tristes cires. Alors, je dis pas que il faut toujours mettre le gyrophare, son chapeau de clown et son nez rouge, voilà, ouais. Qu'il faut envoyer zim boum boum tout le temps. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que, ouais, c'est son habit de lumière. Voilà, il faut. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Les émotions. On est quand même sur les émotions. Il y a tellement de choses qui passent et qui sont retenues, qui laissent une bonne empreinte par l'émotion, que c'est ça qu'il faut viser. Après, que des gens soient plus réservés que d'autres, ça me perturbe pas, parce que par la qualité du retour, même s'il est posé, on peut aussi avoir d'autres styles, pourvu qu'ils soient stimulants. Voilà. Ok, Julien.
Super. Et alors, est-ce que tu as des mentors et des gens qui t'ont inspiré? Alors, tu en as déjà parlé, notamment à travers les coachs et tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué?
Alors, c'est ma chance. D'abord, c'est se dire que on se fait rarement tout seul. Voilà. Déjà, on a un père, une mère. Ça, c'est physiologique. En termes de gamètes, d'ovules, de sperme, voilà. De toute façon, on se fait jamais tout seul. Eh bien, dans ce que l'on devient comme expert, car je m'assume avec l'humilité qui s'y est, mais faut se méfier des faux modestes. D'ailleurs, j'aime bien cette image. Faut savoir que lorsque le centurion romain revenait d'une conquête et qu'il traversait Rome avec, sur son chariot de vainqueur avec tout ce qu'il avait gagné devant lui, il avait la couronne de laurier. Et la couronne de laurier, elle était tenue par un esclave derrière lui qui lui soufflait dans l'oreille « Tu es un simple mortel ». C'est-à-dire que il traversait tout Rome ovationné par la liesse populaire, okay, avec tout son butin, mais sur son chariot de vainqueur, quelqu'un lui disait à l'oreille, tu n'es qu'un simple mortel. Voilà, on lui rappelle. Donc, moi, mon statut de simple mortel, c'est qu'en fait, on devient un expert parce que on a eu la chance de rencontrer des belles personnes, des formateurs et tout. Alors, il y a jamais beaucoup d'occasions de le faire. Je dirais que j'ai un certain monsieur Daniel Laurent qui était mon professeur d'athlétisme à l'UFR Stabs de Paris 5 La Crotelle, mon formateur. Et honnêtement, avec monsieur Daniel Laurent, j'ai vu la Vierge, parce que ce qu'il m'a présenté et ce qu'il m'enseignait pour comprendre l'athlétisme, d'ailleurs titre d'un livre de Michel Pradet qui sera un autre de mes inspirateurs forts. Monsieur Daniel Laurent, bien sûr, aujourd'hui décédé. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas bien sûr, c'est que malheureusement, il nous a quittés un peu trop tôt à mon goût. Voilà. Ensuite, J'ai quelqu'un, un pygmalion dans le basketball, qui s'appelle Monsieur Bernard Gros-Georges. Alors lui, il est extraordinaire, parce que, justement, avant Monsieur Daniel Laurent, quand je suis à ma première année du professorat de PS, à l'époque, on était interne, ça s'appelait P1, les auditeurs de ma génération se retrouveront, j'étais au lycée de Corbeil, et Monsieur Bernard Gros-Georges, pour moi, était quelqu'un d'assez phénoménal. Il m'enseignait le basketball, le saut en hauteur, et c'est lui qui était répétiteur des cols de psychologie. Il avait une thèse de psycho. Et là, c'était intéressant. Et donc, je vais retrouver cet homme-là 2 ans plus tard à Paris 5. Il quitte le lycée de Corbeil pour être à l'UFR-SAP de Paris 5. Et c'était, alors là, pour le coup, totalement le prof de basketball. Mmh. Et c'était largement en basketball ce que Monsieur Daniel Laurent était en athlétisme. J'en veux pour preuve que moi, qui étais quand même une clé à molette en basket, eh bien, j'ai eu 18 au CAPEPS.
Okay.
Parce que, voilà. Et donc, autant Monsieur Daniel Laurent, lui, n'avait pas de mal à me captiver parce que j'étais un féru d'athlétisme. Mmh. Je buvais ses paroles parce que j'étais un athlète. Autant le basketball, Bernard, il m'a fait comprendre et aimer le basketball par ses méthodes et tout. Et donc, je le remercierai jamais après. Et c'est Bernard Gros-Georges, quelques années plus tard, qui va souffler dans l'oreille de Jackie Comer de m'engager dans son staff de sélectionneur de l'équipe de France de basketball féminin. Tu imagines? Et pour finir, avec Bernard, eh bien, on a mené un diplôme conjointement que lui avait mis en place. C'est le diplôme de préparateur physique du basketball. Ça permet de faire une petite digression. C'est que, dans les formations, il faut savoir que les formations, elles sont sorties comme les champignons à l'automne, dans les années 96 et fin des années 90, donc. Et donc, il y a eu des DU, beaucoup de diplômes universitaires d'abord. Aujourd'hui, il y a eu la filière entraînement sportif qui s'est affirmée et qui laisse penser que quand on a une licence 3 entraînement sportif et qu'on a un master entraînement sportif, on a des compétences de préparateur athlétique. Je ne dirais pas le contraire, c'est le niveau de ses compétences qui est à discuter. Eh bien, après, il y a eu des fédérations qui ont mis en place leur propre diplôme de préparateur physique dans leur discipline, donc, parce qu'il y avait, on sentait bien, le besoin de spécialiser le préparateur physique dans son sport. Alors, on a eu le tennis, qui très tôt a fait son diplôme de préparateur physique du tennis. Ils appelaient ça entraîneur physique du tennis. Il y a eu le football avec le CEPP, que moi j'ai transformé en CEPA, je vous dirai pourquoi si j'ai le temps. Certificat d'entraîneur préparateur physique. Et puis, Bernard Gros-Georges, dans le basket, il a mis en place celui du basket. Et donc, conjointement, Bernard et moi, on a mené ensuite ce diplôme. Voilà. Que te dire? Te parler de gens qui, en tant que athlètes, m'ont marqué. Je vais parler de Joseph Maigrot. Joseph Maigrot, dont on a donné le nom à la salle d'athlétisme de l'INSEP. C'est notre mage dans l'histoire des entraîneurs, du sprint en tout cas. Et quand j'étais jeune athlète au Racing Club de France, j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur avancé dans l'âge à l'époque, largement à la retraite. Il trouvait encore le moyen de s'occuper du jeune cadet que j'étais, et j'étais pas un monstre de talent à l'époque, je peux te dire. Et Joseph Maigrot m'a marqué par son humanisme, son regard sur l'ado que j'étais. Et puis, comme ça, comme une frise, Jackie Verzier, qui a été l'entraîneur national du bataillon de Joinville, et qui m'a fait quelques séances à l'INSEP, et grâce à qui j'ai fait ensuite mon service militaire à l'école interarmée des sports de Fontainebleau. Daniel Lamarre, qui a été mon entraîneur à l'UAI Paris. Daniel Lamarre était en plus un expert dans le chronométrage électronique. Au début du chronométrage électronique, c'était vraiment quelqu'un de pointure, mais aussi un entraîneur d'athlétisme. Et Robert Vosna, enfin, qui était l'entraîneur national du sprint, qui est le premier à m'avoir accueilli à l'INSEP. Voilà. Ça, c'est en tant que pratiquant, je dirais. Mais alors, au niveau de l'expertise, c'est Fernand Hurtubise que je vais noter, nommer et citer, en ayant vraiment une pensée même d'admiration. dans l'affection, il y a le respect et l'admiration conjointe, parce que Fernand Hurtubise m'a fait gagner un temps considérable au plan de la méthodologie du sprint quand je suis devenu entraîneur. Et j'ai à son égard la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a vraiment fait passer un cap dans ton métier, tu lui dois reconnaissance à vie. Et puis, accessoirement, c'est aussi un sage. C'est con ce que je dis quand je dis accessoirement. C'est un sage, Fernand Hurtubise, quelqu'un qui a un regard sur la personne qui l'entraîne, avec qui il travaille. Et voilà. J'arrive tout naturellement à Henri Hélal, mon père spirituel, avec qui j'ai fait mon diplôme de l'INSEP. Et Henri Hélal, qui n'était pas du tout dans l'athlétisme au départ, est quelqu'un qui habite ma ville d'abord, et qui a connu le même drame que j'ai connu, c'est-à-dire la perte d'un enfant, mais qui était un méthodologicien extraordinaire. Et lui aussi, il était captivé par les méthodes d'entraînement tout sport. Vision à 180, pour pas dire 360. Et Henri Hélal, c'est le monsieur entretien de l'INSEP. Les entretiens de l'INSEP, c'est monsieur Henri Hélal. Et quand il faisait les petits fascicules qui suivaient, souvent il prenait la plume des intervenants pour coucher sur le papier leur méthode. Et ça, j'ai retenu de mon père spirituel qui est Henri Hélal, cette dimension-là, c'est qu'il faut formaliser pour transmettre. Il faut pouvoir coucher sur le papier pour ensuite en faire un document d'échange, un document de transmission et sur lequel on peut parler. Voilà. Monsieur Henri Hélal que j'embrasse. Alors, il y a quelqu'un que je connais d'amitié depuis notre club commun qui était l'UAI Paris, qui est Michel Pradet. Alors, voilà, autre belle personne généreuse, et tu regardes ses écrits, comprendre l'athlétisme, la préparation physique, ce qu'il a fait dans éducation et motricité, conduite motrice, ouais, je retrouverai le bouquin tout à l'heure, on fera un petit break, mais c'est extraordinaire. Cet homme-là, il nous a marqué. Et tu vois comme c'est particulier, c'est que il a fait comprendre l'athlétisme. Il nous a marqué ce livre, il nous a permis de passer nos diplômes, etc. Aujourd'hui, j'ai contribué à écrire les trois livres sur l'athlétisme de la revue EPS, quelque part un peu comme si je voulais prolonger ce qu'il avait fait. Mais s'il n'y a pas comprendre l'athlétisme, peut-être qu'avec mes co-auteurs, que sont Thierry Blancon, Sébastien Levic pour les sauts, et puis bien sûr Thierry Chauffin pour les courses, peut-être qu'on n'écrit pas ces bouquins-là. Donc on a été dans l'affiliation. Préparation physique, la préparation physique dans l'édition INSEP. Nous, avec Thierry Blancon, on a fait préparation physique, qui est quelque part la suite actualisée. Voilà. Donc, quand je dis que Michel Pradet a été un inspirateur, ça va jusqu'au fait que, on a écrit des livres qui sont la suite de ces liens, de ces livres propres qui nous ont marqués. Mon dernier bouquin que j'aime bien, c'est mon. Ouais. Alors, je l'ai écrit tout seul. Comme Goldman, il avait fait cette chanson, elle a fait un enfant tout seul. Moi, j'ai fait la motricité athlétique. Ouais. La motricité athlétique, c'est aussi... le livre dans lequel il a écrit conjointement Michel Pradet, qui nous a marqué, c'est « Énergie et conduite motrice ». Il a fait toute la partie physio de « Énergie et conduite motrice ». Ça fait partie des petits trésors qu'il faut encore relire. Voilà, Julien, il y en aurait peut-être d'autres, mais déjà, tu me permets... Voilà. Ah si, et enfin, mon grand frère astral, faut que je le raconte ça, Monsieur Jean-Pierre Heger.
Oui.
Alors, oui. Monsieur Jean-Pierre Heger.
Une autre légende.
Alors là, c'est une autre légende, une autre sommité. Et tu sais quoi, cet homme est un monstre de compétence, de générosité et d'humanité. Et il est de 12 ans mon aîné, jour pour jour. Nous allons prendre, Julien, dans 9 jours, tous les deux, un an de plus. Nous sommes nés le 30 juillet, tous les deux. Mais Jean-Pierre est mon grand frère de 12 ans. Oui. Donc, quand je vais prendre 68 ans le 30 juillet là, 2023, mon grand frère va prendre 80 ans. Oui. Respect, mille respects. Mais tu sais en quoi il est mon grand frère astral en plus ? L'anecdote, elle est belle. C'est que dans son énorme curriculum vitae, dans son énorme palmarès, Jean-Pierre Aiguer a été le préparateur athlétique de l'équipe de France de basketball masculin en 2000 à Sydney. On compte, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ?
Médaille d'argent.
À Sydney, en 2000. Ils vont être médaillés d'argent contre les États-Unis. Voilà, avec un super match et un beau parcours. Or, en 2000, il n'y a pas grand monde qui allait donner, qui allait parier sur une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de l'équipe de France de basketball aux Jeux Olympiques. Hein, voilà. Et donc, en 2010, lorsqu'il participe à ce diplôme que j'ai évoqué, on a travaillé avec Bernard Gros-Georges, le diplôme de préparateur physique du basketball, eh bien, Jean-Pierre a toujours rendu au basket ce qu'il lui avait apporté. Moi, je crois qu'il a plus donné que qu'il se l'a reçu, mais en tout cas, il est toujours venu. C'est pas pour le prix qu'on le payait et les conditions dans lesquelles il travaillait, mais pour autant, il est toujours venu. Et alors voilà, en 2010, on a terminé l'intervention, on sort de la douche, et puis on parle de, ouais, un petit peu plus intimement de nos vies, de nos âges et tout. Il me dit 1943 et il me dit 30 juillet. Oh, waouh, mais on est né le même jour à 12 ans d'intervalle. Et là, tout de go, Jean-Pierre, il me dit, ah ben c'est pas compliqué, hein. Dans 2 ans, tu seras toi aussi médaillé olympique. Il m'avait pas dit couleur de la médaille.
Ouais,
m'a dit, toi aussi, tu auras une médaille aux Jeux Olympiques de 2012. Et il se trouve que avec l'équipe de France féminine, nous avons eu la médaille d'argent 12 ans plus tard contre les États-Unis aussi. Voilà, c'est pas beau ça?
Toujours ce 12 ans aussi, ouais. C'est énorme. C'est énorme.
Voilà. Et donc, bien évidemment, l'inspirateur qu'il est, l'inspirateur qu'il est et tout. Et puis, Jean-Pierre m'a fait un cadeau immense il y a un mois. Il m'a invité chez lui une semaine. On a conjointement fait une formation à Lausanne pour le Comité international olympique, pour la solidarité olympique. Mais il m'a hébergé toute une semaine où on a pu échanger plus que jamais, comme je n'aurais jamais rêvé de pouvoir le faire. Et donc voilà, ça fait partie des cadeaux de la vie.
C'est génial. Voilà. C'est
génial. Je t'écoute.
Ouais. Et est-ce que tu as d'autres livres dont tu veux nous parler ou que tu veux citer, qui t'ont marqué ?
S'agissant de livres, j'ai une bibliothèque que je dirais monstrueuse dans le domaine de la préparation physique, de l'entraînement, de toutes les ressources supports. C'est-à-dire que elle est pas monstrueuse en soi, parce qu'il y a toujours des bibliothèques plus énormes, mais par contre, au niveau des livres, dans notre champ, je les ai presque tous, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui parle de préparation physique, d'entraînement, de planification, de méthodes de renforcement musculaire, de ressources aérobies, de souplesse, de gainage, de récupération, je l'ai. Ça me pose même problème aujourd'hui que je suis à la retraite parce que ça prend beaucoup de place. Mais ça, c'est un préambule simplement pour dire que je vais parler de quelques bouquins, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que quand un auteur, met quelque chose sur le papier, il fait un effort, et il y a la volonté de transmettre, la volonté de partager, tu l'as toi-même au travers de cette action de podcast, et donc, plus que jamais, j'ai pas le sentiment d'être le seul à avoir l'envie de transmettre, voilà. Donc voilà. Il faut complètement être conscient que je vais parler de pas mal de livres, mais qu'il y en aurait plein d'autres et qu'il faut vexer personne, et que c'est très sincère que si je pourrais, là, dans mon bureau, sortir chacun des livres et dire ce que chacun de ces livres m'a apporté. Le noyau, la pépite que j'ai réussi à trouver dedans, qui m'a, à mon niveau, apporté. Pour un autre, la même lecture sera autre chose, et c'est ça qui est riche, mais pour avoir acheté, parce que j'en ai acheté 99% de mes bouquins. Pour les avoir achetés, c'est que je savais que j'allais y trouver quelque chose. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu prends un registre comme le renforcement musculaire ou comme la souplesse, il faut pas avoir peur d'en acheter plusieurs pour croiser sur le renforcement musculaire. On prend une maison comme Amphora, ben elle est étonnante parce que quelque part au plan de la ligne éditoriale, je trouve qu'elle se torpille toute seule, tellement il y a de bouquins sur le renforcement musculaire différents. Alors, ça ressemble à un reproche, mais en même temps, je suis vachement content, parce que ça donne de la matière, ça veut dire qu'il n'y a pas une pensée unique, que on est riche de la diversité. Très bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant, et ça peut dérouter les jeunes collègues. Renforcement musculaire, quel bouquin ! Waouh ! Il y en a tellement qu'on s'y perd, quoi. Il faut... Bon. Très bien. Alors, on commence. Tu sais quoi ? Et toute charité commence par soi-même. Et je commencerai par dire que mes bouquins, moi, je les aime beaucoup. Ah, je les aime beaucoup. Parce que c'est le fruit de choses qui étaient accumulées, et qu'on a mis sur le papier. Alors, je les aime beaucoup pour plein de raisons. Si on prend les livres sur l'athlétisme, les sauts, les courses. J'ai participé à celui des lancers avec Dominique Domaille, mais les sauts, les courses. Alors déjà, c'est qu'on est des co-auteurs. C'est sympa d'écrire à plusieurs, avec Sébastien Levic qui a assuré la partie perche, Thierry qui a assuré la partie son hauteur et moi longueur triple. On s'est quand même bien trouvé, hein, comme des mousquetaires, un pour tous pour un. Je ne dirais pas qui est D'Artagnan, mais il est pas mousquetaire au tout début. Et en fait, ça c'est une grande richesse. La revue EPS ensuite, parce que c'est une maison d'édition de qualité, malheureusement qui est un petit peu confidentielle, parce que on la trouve pas à la FNAC, dans les kiosques. C'est une maison d'édition qui vend ses livres par correspondance, mais quelle qualité ! Et quelle qualité, y compris parce que on a des assistants de rédaction avec qui on progresse. Moi, mon dernier livre, fait avec Jean-Michel Picard, comme assistant, il m'a dit, Jean-Michel, mais c'est facile avec toi d'écrire des livres, parce que ta rédaction, c'est clair et tout. Oui, sauf que c'était le cinquième, et que... les quatre précédents, le tout premier on a ferraillé, le deuxième c'était un peu plus fluide et tout, c'est ça. Donc la qualité d'écriture liée au fait que on a des bonnes et des bons assistants de rédaction. Voilà, ça c'est les trois premiers. Donc pour les citer, athlétisme les sauts, volume 2, athlétisme les courses, volume 3, préparation physique avec Thierry Blancon, donc, et la motricité athlétique, mon dernier opus, en attendant les autres qui sont sous la couveuse de ma plume.
C'est bon.
Je vais faire cadrage débordement, comme en rugby. Je vais surprendre nos auditeurs, je vais basculer sur un registre qui n'a rien à voir. Et voilà, deux bouquins sur le rock. Sur le rock, mais comment ils sont écrits? Le premier, c'est Philippe Manœuvre, rock, extraordinaire, aux éditions HarperCollins. Mais il faut lire Philippe Manœuvre, ok? Le dos contre la barrière, j'enfile un gant de cuir, je regarde en arrière, extra balle, ok? Ce mec-là, il a accompagné notre culture du rock, en faisant de très très belles émissions, et en participant à Rock and Folk, c'était lui qui était à la tête de Sex Machine, cette émission de rock. Bon, voilà. Il faut lire Philippe Manœuvre. Alors le style est très nerveux, comme le mec, comme un rock syncopé, très très nerveux. Et le deuxième, c'est de Louis Bertignac, Jolie petite histoire. Ce qui est super, c'est qu'avec ces deux auteurs-là, on fait une visite historique dans le rock. Contemporaine, hein, bien sûr, une visite contemporaine, mais on traverse le rock à eux deux, et pour le coup, avec Louis Bertignac, bien sûr, c'est le groupe Téléphone, mais il n'y a pas que ça dedans, et c'est très bien écrit, c'est très très bien écrit. Là, je me retrouve dans l'usage des mots, et comment on peut transmettre des émotions, y compris par la qualité de prose. Manœuvre, il en transmet par... un style syncopé, des flats, des pam, des breaks, coum, la grosse caisse, machin. Mais il y a de l'harmonie chez Louis Bertignac. Voilà. Ensuite, il y a un auteur qui nous élève sur la les réflexions relatives à la spiritualité, aux religions et aux aspects cosmiques. C'est Junior Dos Santos, qui a écrit « Furie divine » entre-temps, et qui a écrit bien d'autres ouvrages. C'est un historique, c'est un historien autour des religions et des aspects un peu ésotériques qu'il faut vraiment lire. « La formule de Dieu »,« L'ultime secret du Christ », La clé de Salomon, Codex 632, le secret de Christophe Colomb, Furie divine encore, et Vaticanum. Voilà, c'est des romans avec terriblement étayés par des informations et des sources scientifiques avérées. Et c'est ça, la magie. C'est-à-dire que c'est notre métier, quelque part. Nous, préparateurs athlétiques, on doit être... vraiment au fait des connaissances scientifiques les plus actuelles, et ensuite les utiliser. Les scientifiques ne sont pas au-dessus de notre tête. Ils sont même à nos pieds, devrais-je dire, parce qu'on s'appuie sur leurs connaissances. Et quand ils nous font des, quand ils nous donnent des connaissances merdiques, on s'écroule, et nous, on quitte notre poste parce qu'on s'est merdé, mais eux, ils restent en place dans le labo, hein. Faut dire les choses. Donc, voilà pourquoi Junior Dos Santos.
Top.
Je continue? Alors là, je vais parler de quatre livres qui sont peu connus. Quatre livres peu connus, mais il faut y aller. Il faut totalement y aller. Les éditions Volo d'Alen, notez bien ça. On a monsieur Michel Dufour qui a fait quatre tomes monstrueux. Quatre tomes monstrueux. Le premier, c'est « Les diamants musculaires, qualité physique », tome 1, « L'explosivité et la puissance musculaire ». Le tome 2, c'est « L'athlète et le guépard, les qualités physiques », tome 2, « La vitesse ». Extraordinaire. Okay. Il faut que je retrouve le tome 3, je l'ai dans mon... Ouais. Mais j'arrive au tome 4, « Le puzzle de la performance ». Planification, périodisation et régulation de la charge. Le puzzle de la performance, c'est le tome 4. Oui, le tome 3, c'est l'énigme athlétique. Voilà, c'est pour nous ça, c'est l'énigme athlétique. Voilà. Je vais retrouver.
T'inquiète.
Ah ouais, excuse-moi, le tome 3, c'est la gazelle et l'athlète, qualité physique tome 3, l'endurance, la gazelle et l'athlète. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et ça, c'est des bouquins qui sont peu connus. Il y a Cyril Gindre, le patron de cette édition, qui a fait « Le vivant et l'entraînement, quand le vivant nous apprend l'entraînement ». Là, ça monte très haut, mais il faut y aller. Il faut y aller sur ces bouquins-là. Mm-hmm. Voilà.
Top, Fred, merci.
Est-ce voilà, que... j'en ai oublié un.
Vas-y.
J'en ai oublié un. Attends, si j'en ai oublié un. Il faut y aller. Là, il est plus léger et l'homme, il est extraordinaire. Tout le monde connaît Philippe Lucas.
Ouais.
Philippe Lucas, l'entraîneur de Laure Manaudou. Il a été l'entraîneur de bien d'autres nageurs derrière. D'ailleurs, il s'est beaucoup investi. Ça allait bien d'ailleurs avec sa voie méthodologique. Il est pas mal sur les épreuves de natation en distance. C'est-à-dire, ça s'appelle natation eau vive, natation marathon, tu vois. Philippe Lucas, il a fait un bouquin super, il l'a appelé Entraîneur. Entraîneur. Allez sur ce bouquin, vous allez d'abord comprendre beaucoup de choses de son fonctionnement, et puis il nous enseigne des choses au travers de son témoignage. On décode bien le bonhomme. Et Philippe Lucas, j'ai toujours eu de bons retours de lui lorsqu'il vient auprès des étudiants en conférence. Il est bienveillant, il est accessible. Ce qui tranche avec l'image qu'il donne de mec toujours en colère, de genre « et puis c'est tout !» Tu vois, bon voilà. Mais non, c'est pas ça. Philippe Lucas, c'est un mec que j'aimerais rencontrer. D'ailleurs, s'il m'entend... Tu l'as interviewé, Philippe Lucas ?
Non, pas encore.
Non ?
Pas encore, ouais.
Pas encore. Ah, mais c'est un homme, j'aimerais bien le rencontrer parce que il est certainement bien meilleur que ce que son côté un peu revêche et rugueux laisse paraître de l'extérieur, et il a raison de se protéger. Ça, voilà, si ça peut lui éviter les cons en ayant cette posture un petit peu revêche, qui est sa façon de se protéger, je sais pas. Voilà. Ah ouais, il y en a un aussi dans le même esprit aussi, parce que on parle pas mal des biographies de sportifs, il faut les lire, mais les biographies d'entraîneurs et surtout d'entraîneurs particuliers pointus, il faut les lire. Il y en a un qui date de l'époque de Ben Johnson, parce que Ben Johnson, c'est terrible comme histoire. C'est quand même le premier sprinter qui a été convaincu de dopage dans le cadre des Jeux Olympiques. Il y en a pas eu avant, me semble-t-il. Donc c'est terrible. Et son entraîneur Charlie Francis explique tout. Il met tout à plat. Et au travers de son bouquin, on a à la fois plusieurs protocoles de dopage. Ça c'est une chose. Il les explique, mais beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques. J'ai beaucoup appris de lui. Notamment, on court sur la piste, on sprint au-dessus de la piste. Ça, c'est pas mal. Philippe Lucas, il explique ça aussi, c'est que les nageurs de haut niveau sont au-dessus de l'eau. Pas mal non plus. Voilà. Ça y est, je t'ai doux dévalé avec ce dernier livre, je pense que je suis pas mal.
Impeccable, impeccable. Fred, si des gens ont des questions, où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce que tu as une adresse mail, un réseau social que tu utilises en particulier ou pas?
Est-ce que d'ordinaire, les auditeurs, ils sont en mesure de revenir vers toi pour poser ces questions?
Oui. Ça arrive.
Moi, je préférerais.
Ça joue.
Je préférerais sélectionner comme ça. Je préférerais qu'ils écoutent, voilà, et puis qu'ils se disent tiens, ben ils repassent par Julien pour contacter l'intervenant, parce que là, tu vois, j'ai aucune idée de qui m'écoute, qui m'entend et tout ça, et je voudrais pas que ça arrive de n'importe où. La personne qui va vouloir me poser une question en repassant par toi, elle sera motivée et je voudrais bien à ce moment-là, tu vois, entrer en interaction avec elle.
Parfait.
Voilà, c'est-à-dire que pour le coup, tu me transmettrais ses coordonnées et là, je veux bien être en interaction, mais pas ouvrir de façon à l'espace comme ça commun, mais de mes coordonnées.
Pas de souci, c'est parfait.
Voilà.
Fred, merci beaucoup. À très bientôt et encore une fois, bravo. Merci pour ton temps.
Ok, à bientôt, d'une façon ou d'une autre.
Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous, débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.